Chapitre 15. L'arrêt. Ainsi occupé, le jour de ses interrogatoires et la nuit de la correspondance de ses voisins, perçant dans les intervalles un trou pour communiquer avec Pompadour, Gaston était plus inquiet qu'ennuyé. D'ailleurs, il avait découvert une autre source de distraction. Mademoiselle de Launay, qui obtenait tout ce qu'elle désirait du lieutenant Maison Rouge, pourvu qu'elle demandât les choses qu'elle désirait avec un doux sourire, en avait obtenu du papier et des plumes. Elle en avait naturellement envoyé au chevalier Duménil, lequel avait partagé son trésor avec Gaston, avec lequel il communiquait toujours, et Richelieu, avec lequel il était parvenu à communiquer. Or Gaston avait eu l'idée, les Bretons sont plus ou moins poètes, de faire des vers à Hélène. De son côté, le chevalier Duménil en faisait pour mademoiselle de Launay, laquelle en faisait pour le chevalier, si bien que la Bastille était devenue un véritable Parnasse. Il n'y avait que Richelieu qui déshonorait la société en faisant de la prose et qui, par tous les moyens possibles, écrivait à ses amis et à ses maîtresses. Le temps passait donc, et puis d'ailleurs le temps passe toujours, même à la Bastille. On avait demandé à Gaston s'il serait aise d'assister à la messe, et comme, outre la distraction que la messe devait procurer à Gaston, il était essentiellement et profondément religieux, il avait accepté de grand cœur. La messe finie, on reconduisit les prisonniers chez eux. En traversant un corridor noir, Gaston croisa un homme qui paraissait un employé de la maison. Cet homme chercha la main de Gaston et y glissa un petit papier. Gaston mit nonchalamment la main dans la poche de sa veste et y laissa le billet. Mais arrivé chez lui, aussitôt qu'il eut vu la porte se refermer sur son conducteur, il tira avidement le billet de sa poche. Il était écrit sur du papier à sucre avec la pointe d'un charbon affilé et contenait cette seule ligne « Feignez d'être malade d'ennui ». Il sembla d'abord à Gaston que l'écriture du billet qui lui avait été remis dans le corridor ne lui était pas inconnue, mais elle était si grossièrement tracée qu'il était bien difficile que les traits qu'il avait sous les yeux pussent servir de guide à son souvenir. Il perdit donc peu à peu cette idée et attendit le soir avec impatience pour consulter Duménil sur ce qu'il devait faire. La nuit venue, il fit le signal d'usage, le chevalier se mit à son poste et Gaston raconta ce qui lui était arrivé en demandant à Duménil, qui avait un usage assez prolongé de la Bastille, ce qu'il pensait du conseil que lui avait donné son correspondant inconnu. « Ma foi, lui répondit le chevalier, quoique je ne sache pas où le conseil peut vous mener, suivez-le toujours, car on ne saurait vous nuire. On vous donnera moins à manger peut-être, mais voilà ce qui peut vous arriver de pis. » Gaston fit donc le malade, ne mangeant rien de ce qu'on lui apportait et vivant des libéralités de sa voisine dont il avait accepté les offres. Vers la fin du second jour, monsieur de Launay monta lui-même. On lui avait rapporté que depuis 40 heures Gaston n'avait rien mangé. Il trouva le prisonnier dans son lit. « Monsieur, lui dit-il, j'apprends que vous êtes souffrant et je viens m'informer moi-même de l'état de votre santé. » « Vous êtes trop bon, monsieur, répondit Gaston. Il est vrai que je suis souffrant. »« Qu'avez-vous ? » demanda le gouverneur. « Ma foi, monsieur, dit Gaston, je crois que vous ne mettez pas d'amour-propre à votre château. Je m'ennuie à la Bastille. »« Quoi, depuis 4 ou 5 jours que vous y êtes, je me suis ennuyé de la première heure. »« Et quel genre d'ennui éprouvez-vous ? » »« Y en a-t-il plusieurs ? » ?»« Sans doute, on s'ennuie de sa famille. » »« Je n'en ai pas. » »« On s'ennuie de sa maîtresse. » Gaston poussa un soupir. On s'ennuie de son pays. Oui, c'est cela, dit Gaston, sentant bien qu'il fallait qu'il s'ennuyât de quelque chose. Le gouverneur parut réfléchir un moment. Monsieur, lui dit-il, depuis que je suis gouverneur à la Bastille, je déclare que les seuls moments agréables que j'y ai passés sont ceux où j'ai été à même de rendre quelques services aux gentilshommes que le roi confie à mes soins. Je suis donc prêt à faire quelque chose pour vous, si vous me promettez d'être raisonnable. Je vous le promets, monsieur. Je puis vous mettre en relation avec un de vos compatriotes, ou du moins avec un homme qui m'a paru parfaitement connaître la Bretagne. Et cet homme est prisonnier comme moi, comme vous. Un vague sentiment vint à l'esprit de Gaston que c'était ce compatriote dont parlait M. Delaunay qui lui avait fait remettre le billet dans lequel on l'invitait à faire le malade. « Si vous voulez bien faire cela pour moi, dit Gaston, je vous en serai bien reconnaissant. Eh bien, demain, je vous le ferai voir. Seulement, comme il m'est recommandé de le tenir fort sévèrement lui-même, vous ne pourrez passer qu'une heure avec lui. » Et comme il y a défense absolue pour lui de quitter sa chambre, c'est vous qui l'irez trouver. « Je ferai tout ce que vous désirez, monsieur, » répondit Gaston. « Alors, c'est décidé, demain, à 5 heures, attendez-moi, moi ou le major de la place, mais c'est à une condition. « Laquelle ? « C'est que, dans l'attente de cette distraction, vous mangerez un peu aujourd'hui. « Je ferai ce que je pourrai. » Gaston mangea un blanc de volaille et but 2 doigts de vin pour tenir parole à M. Delaunay. Le soir, il fit part au chevalier du Ménil de ce qui s'était passé entre lui et M. Delaunay. « Ma foi, lui dit celui-ci, vous êtes bien heureux. Le comte de Laval a eu la même idée que vous, et la seule chose qu'il ait obtenue, c'est d'être transporté dans une chambre de la tour du Trésor où il me disait qu'il s'ennuyait à mourir, n'ayant d'autre distraction que de causer avec l'apothicaire de la Bastille. « Diable, dit Gaston, comment ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ? Je l'avais oublié. » Ce ressouvenir tardif du chevalier avait un peu troublé Gaston. Placé comme il était entre Mademoiselle de Launay, le chevalier du Ménil et le marquis de Pompadour, avec lequel il allait incessamment entrer en relation, sa position, moins l'inquiétude que lui inspirait son sort et surtout celui d'Hélène, était tolérable. Si on le transportait ailleurs, il ne pouvait manquer d'être attaqué par la maladie qu'il avait faim d'éprouver. À l'heure convenue, le major de la Bastille, suivi d'un guichetier, vint chercher Gaston, auquel on fit traverser plusieurs cours et qui s'arrêta enfin avec ses conducteurs devant la cour du Trésor. Chaque tour, on le sait, avait son nom particulier. Dans la chambre numéro 1 était un prisonnier auprès duquel on introduisit Gaston. Cet homme, le dos tourné à la lumière, dormait tout habillé sur son lit de sangle. Le reste de son dîner était encore près de lui, sur une table de bois vermoulu, et son costume, déchiré en plusieurs endroits, indiquait un homme du commun. Le major et les guichetiers partis, Gaston resta seul avec le prisonnier, qui commença par se détirer longuement, et puis bâilla 3 ou 4 fois, se retourna, regarda sans rien voir dans la chambre, et fit craquer son lit en se secouant. « Ah, bon qu'il fait froid, cette maudite Bastille !» murmura-t-il, en se grattant le nez avec fureur. « Cette voix, ce geste, » pensa Gaston. « Mais non, c'est lui-même, et je ne me trompe pas !» Et il s'approcha du lit. « Tiens, tiens, tiens !» dit le prisonnier, en laissant glisser ses jambes en bas de son lit, sur lequel il demeura assis, regardant Gaston d'un air étonné. « Vous ici, monsieur de Chanlay ?»« Le capitaine La Jonquière !» s'écria Gaston. Moi-même, c'est-à-dire, non pas, je ne suis plus ce que vous dites. J'ai changé de nom depuis que nous nous sommes vus. Vous ? Oui, moi. Et vous vous appelez ? Première Trésor. Vous dites ? Première Trésor, pour vous servir, chevalier. C'est une habitude à la Bastille. Le prisonnier prend le nom de sa chambre. Cela évite au guichetier le désagrément de retenir les noms des gens qui n'ont pas besoin de savoir et il serait dangereux pour eux de ne pas oublier. « Oui, je comprends, » répondit Gaston, qui avait regardé fixement la Jonquière pendant toute cette explication. « Ainsi, vous voilà prisonnier ?» Parbleu, vous le voyez bien, je présume que ni vous ni moi ne sommes ici pour notre plaisir. Alors, nous sommes découverts? J'en ai peur. Grâce à vous? Comment grâce à moi? S'écria la Jonquière en jouant le plus profond étonnement. Ne plaisantons pas, je vous prie. Vous avez fait des révélations, traître. Moi? Allons donc, jeune homme, vous êtes fou, et ce n'est pas à la Bastille qu'il fallait vous mettre, c'est aux petites maisons. « Ne niez pas, monsieur d'Argenson me l'a dit. « Monsieur d'Argenson, ah pardieu, l'autorité est bonne. « Et savez-vous ce qu'il m'a dit à moi ?»« Non. « Il m'a dit que vous m'aviez dénoncé. « Monsieur, Eh bien après, monsieur, n'allons pas nous couper la gorge parce que la police a fait son métier en mentant comme un affreux arracheur de dents. Puis enfin, sur quoi a-t-il pu découvrir? Je vous le demande. Voyons, écoutez-moi, croyez-vous, comme vous le dites, que ce soit le hasard qui nous rassemble? Que voulez-vous que ce soit? Parbleu, quelques combinaisons inconnues de nos geôliers, d'Argenson, de Dubois peut-être. N'est-ce donc pas vous qui m'avez écrit un billet? Un billet, moi, dans lequel vous me disiez de feindre une maladie d'ennui? Sur quoi aurais-je écrit? Avec quoi? Par qui? Gaston parut réfléchir, et ce fut pendant ce temps que la Jonquière regarda de son petit œil vif et perçant. Tenez, dit le capitaine au bout d'un instant, je crois, moi, tout au contraire, que c'est à vous que nous devons le plaisir de nous trouver réunis à la Bastille. À moi, monsieur? Oui, chevalier, vous êtes trop confiant. Je vous donne cet avis dans le cas où vous sortiriez d'ici, et surtout dans le cas où vous y resteriez. Merci. Avez-vous remarqué si vous étiez suivi? Non. Quand on conspire, mon cher, il ne faut jamais regarder devant soi, mais derrière soi. Gaston avoua qu'il n'avait pas pris cette précaution. Et le duc, demanda la Jonquière, est-il arrêté? Je n'en sais rien, j'allais vous le demander. Peste, cela deviendrait inquiétant. Vous avez conduit une jeune femme chez lui. Vous savez cela? Eh, mon cher, tout se sait. Ne serait-ce point elle qui aurait parlé? Ah, mon cher chevalier, les femmes, les femmes. Celle-là est vaillante, monsieur, et pour la discrétion, le courage et le dévouement, j'en réponds comme de moi-même. Oui, je comprends. Nous l'aimons, donc elle l'est de miel et d'or. Diable de conspirateur que vous êtes, allez, de vous aviser de mener des femmes chez le chef du complot. Mais je vous dis d'abord que je ne lui ai rien confié, et qu'elle ne peut savoir de mes secrets et que ce qu'elle en aura surpris. La femme a l'œil vif et le nez fin. Et sut-elle au reste de mes projets, comme moi-même, je suis convaincu qu'elle n'en eût pas ouvert la bouche. Et monsieur, sans compter la disposition qu'elle a naturellement à cet exercice, est-ce qu'on ne fait pas toujours parler une femme? On lui aura dit, sans préparation aucune, votre amant, monsieur de Chantilly, va avoir le cou coupé, ce qui du reste n'est fort possible, soit dit entre parenthèses, chevalier, si vous ne donnez quelques explications, et je parie qu'elle parle encore. Il n'y a pas de danger, monsieur, elle m'aime trop. C'est pour cela, pardieu, qu'elle aura jasé comme une pie et que nous voici tous les deux ici en cage. Enfin, ne parlons plus de cela. Que faites-vous ici? Je m'amuse. Vous vous amusez, ah bon, voilà de la chance. Vous vous amusez, et à quoi? À faire des verres, à manger des confitures, et à percer le plancher. Vous faites des trous dans le plâtre du roi, dit la Jonquière, en se grattant le nez. Oh, cela est bon à savoir, et monsieur de Launay ne gronde pas? Monsieur de Launay n'en sait rien, répondit Gaston. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Tout le monde ici perce quelque chose. L'un son plancher, l'autre sa cheminée, l'autre son mur. Est-ce que vous ne percez rien, vous? La Jonquière regarda Gaston pour voir s'il ne se moquait pas de lui. Je vous dirai cela plus tard, mais voyons, reprit la Jonquière, parlons sérieusement, monsieur Gaston. Êtes-vous condamné à mort? Moi? Oui, vous. Comme vous dites cela. Ben, c'est une habitude à la Bastille. Il y a ici 20 condamnés à mort qui ne s'en portent pas plus mal. J'ai été interrogé. Vous voyez bien. Mais je ne crois pas que je sois encore condamné. Cela viendra. Mon cher capitaine, sans que cela paraisse, dit Gaston, savez-vous que vous êtes d'une gaieté folle? Vous trouvez? Oui. Et cela vous étonne. Je ne vous savais pas si intrépide. Alors vous regretteriez la vie, vous? Je l'avoue, car il ne faut qu'une chose pour être heureux, c'est de vivre. Et vous vous êtes fait conspirateur, ayant la chance d'être heureux. Je ne vous comprends plus. Je croyais qu'on ne conspirait qu'en désespoir de cause, comme on se marie, quand on n'a pas d'autres ressources. Quand je suis entré dans cette conspiration, je n'aimais pas encore. Et une fois entré, je n'ai plus voulu en sortir. Bravo, voilà ce que j'appelle du caractère. Vous a-t-on donné la question? Non, mais je puis dire qu'il s'en est fallu de peu. Alors, vous l'aurez. Pourquoi cela? parce que je l'ai eu, moi, et qu'il y aurait injustice à ce qu'on nous traitât différemment. Voyez comme tous ces drôles-là m'ont arrangé mes habits. Laquelle vous a-t-on donnée ? Demanda Gaston, frissonnant encore au seul souvenir de ce qui s'était passé entre lui et d'Argenson. Celle de l'eau. On m'en a fait boire un baril et demi. Mon estomac était comme une outre. Je n'aurais jamais cru que la poitrine d'un homme pouvait tenir tant de liquide sans éclater. Et vous avez beaucoup souffert ? Demanda Gaston avec un intérêt mêlé d'anxiété personnelle. Oui, mais mon tempérament est robuste. Mais, reprit Gaston, ne me disiez-vous pas tout à l'heure que je serais certainement condamné ? Voulez-vous savoir toute la vérité ? Oui. Eh bien, d'Argenson m'a dit que vous l'étiez. Gaston pâlit. Si brave que l'on soit, une pareille nouvelle produit toujours quelque émotion. La Jonquière remarqua ce mouvement de physionomie, si léger qu'il fût. Cependant, dit-il, je crois que vous auriez la vie sauf en faisant quelques révélations. Pourquoi voulez-vous que je fasse ce que vous n'avez pas fait, vous ? Les caractères sont différents, les positions. Aussi, je ne suis plus jeune, moi. Je ne suis plus amoureux, moi. Je ne laisse pas de maîtresse dans les larmes, moi. Gaston soupira. Vous voyez bien, continua la Jonquière, qu'il y a en nous deux hommes bien différents. Où m'avez-vous jamais entendu soupirer comme vous soupirez en ce moment ? Si je meurs, dit Gaston, son Excellence aura soin d'Hélène. Et si elle est arrêtée elle-même ? Vous avez raison. Alors ? Alors Dieu sera là. La Jonquière se gratta le nez. Décidément, vous êtes bien jeune, dit-il. Expliquez-vous. Supposons que son Excellence ne soit point arrêtée. Eh bien ? Quel âge a son Excellence ? 45 à 46 ans, je présume. Supposez que son Excellence devienne amoureuse d'Hélène, n'est-ce pas ainsi que vous nommez votre vaillante ? Le duc amoureux d'Hélène, lui, à qui je l'ai confié, mais ce serait une infamie. Oh, le monde en est plein d'infamies, il ne marche qu'avec ça. Oh, je ne veux pas même m'arrêter à cette pensée. Oh, je ne vous dis point de vous y arrêter, dit la Jonquière avec un sourire diabolique. Je vous la donne, voilà tout, faites-en ce que vous voudrez. Chut, dit Gaston, on vient. Avez-vous demandé quelque chose ? Moi, pas du tout. Alors c'est que le temps qu'on nous avait accordé pour votre visite est écoulé. Et la Jonquière se rejeta sur son lit avec précipitation. Les verrous crièrent, une porte s'ouvrit, puis une autre. Enfin, le gouverneur parut. « Eh bien, monsieur, dit le gouverneur à Gaston, votre compagnon vous convient-il ? » « Oui, monsieur, répondit Gaston, d'autant mieux que je connaissais, monsieur le capitaine La Jonquière. Ah, « Vous me dites là, répondit monsieur de Launay en souriant, une chose qui rend ma tâche plus délicate. Mais cependant, puisque je vous ai fait une offre, je ne reviendrai pas sur mes pas. Je permettrai une visite par jour, à l'heure qu'il vous plaira. Fixez l'heure, est-ce le matin, est-ce le soir ?» Gaston, ne sachant ce qu'il devait répondre, regarda La Jonquière. « Dites 5 heures du soir, dit rapidement et tout bas La Jonquière à Gaston. « Le soir à 5 heures, monsieur, s'il vous plaît, dit Gaston. « Comme aujourd'hui, alors ? Comme aujourd'hui. C'est bien, il sera fait comme vous le désirez, monsieur. » Gaston et La Jonquière échangèrent un regard significatif et le chevalier fut reconduit dans sa chambre. Il était 6h30 et par conséquent il faisait nuit obscure. Le premier soin du chevalier en rentrant chez lui fut, dès que la porte de sa chambre fut fermée, de courir à la cheminée. « Hé, le chevalier » dit-il. Duménil répondit. « J'ai fait ma visite. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, j'ai trouvé, sinon un ami, du moins une connaissance, un nouveau prisonnier, qui doit dater de la même époque que moi. Comment le nommez-vous ? Le capitaine La Jonquière. Attendez donc. Le connaissez-vous ? Mais oui. Alors, rendez-moi un grand service. Qu'est-il ? Oh, mais un ennemi acharné du régent. Vous êtes sûr ? Comment donc ? Il était de notre conspiration et s'en est retiré parce qu'il était question d'enlever et non d'assassiner. Alors, il était pour l'assassinat. « C'est bien cela, » murmura Gaston. « Donc, reprit-il tout haut, c'est un homme à qui l'on peut se fier. »« Si c'est le même dont j'ai entendu parler et qui demeurait rue des Bourdonnais au Mouy d'Amour, justement, c'est cela. Non, alors c'est un homme sûr. Tant mieux, dit Gaston, car cet homme tient entre ses mains la vie de 4 gentilshommes. Dont vous êtes un, n'est-ce pas? Dit Duménil. Vous vous trompez, reprit Gaston, et je me suis mis en dehors car il paraît que pour moi tout est fini. Comment tout est fini? Oui, je suis condamné. À quoi? À mort. Il se fit un moment de silence entre les interlocuteurs. En ce moment, Pompadour frappa avec son manche à balai. Pardon, dit Gaston à Duménil, mais le marquis m'appelle. Peut-être a-t-il quelque nouvelle à m'annoncer. Et Gaston alla à son trou, quand quelques coups de couteau il rendit praticable. Dis donc, chevalier, dit Pompadour, demandez donc à Duménil s'il ne saurait pas quelque chose de nouveau par mademoiselle de Launay. Sur qui? Sur l'un de nous. J'ai surpris quelques mots que le major et le gouverneur ont échangés à ma porte. J'ai entendu ceux-ci condamnés à mort. Gaston frissonna. Rassurez-vous, marquis, dit-il, j'ai tout lieu de croire que c'est de moi qu'il était question. Diable, mon cher chevalier, cela ne me rassurerait pas du tout. D'abord parce que nous avons fait connaissance et qu'on devient vite amis en prison, ce qui fait que je serais désespéré qu'il vous arrivât quelque chose. Ensuite, parce que ce qui vous arriverait à vous pourrait bien nous arriver à nous aussi, vu la ressemblance de nos affaires. Et vous croyez que mademoiselle de Launay pourrait nous tirer d'incertitude? Demanda Gaston. Et sans doute, ses fenêtres donnent sur l'arsenal. Après, elle aurait bien vu s'il s'y était passé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et justement, reprit Gaston, voilà qu'elle frappe. En effet, mademoiselle de Launay frappait 2 coups au plafond, ce qui voulait dire attention. Gaston répondit à mademoiselle de Launay en frappant un coup, ce qui voulait dire j'écoute. Puis il alla ouvrir la fenêtre. Un instant après, la ficelle descendit avec une lettre. Gaston tira à lui la ficelle, prit la lettre et alla au trou de Pompadour. Eh bien, dit le marquis, une lettre, répondit Gaston. Que dit-elle? Je n'en sais rien, mais je vais la faire passer au chevalier Duménil qui me le dira. Dépêchez-vous. Pardieu, dit Gaston, croyez bien que je suis aussi pressé que vous. Et il courut à la cheminée. Le cordon, cria-t-il. Vous avez une lettre, dit Duménil. Oui, avez-vous de la lumière? Je viens d'en allumer. Descendez vite le cordon, alors. Le voilà. Gaston attacha la lettre qui remonta aussitôt. La lettre n'est pas pour moi, elle est pour vous, dit Duménil. N'importe, lisez toujours, vous me direz ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas de lumière et vous perdriez beaucoup de temps à m'en descendre. Vous permettez? Eh pardieu! Il y eut un moment de silence. Eh bien, dit Gaston. Diable, fit Duménil, mauvaise nouvelle. Dame, jugez en vous-même. Et Duménil lut. Mon cher voisin, il est arrivé ce soir des juges extraordinaires à l'arsenal, et j'ai reconnu la livrée de D'Argenson. Nous en saurons davantage tout à l'heure, car je vais avoir la visite du médecin, envoyé de ma part mille choses à Duménil. Ah, c'est bien cela que m'avait dit la Jonquière, reprit Gaston. Des juges extraordinaires, c'est moi qu'ils ont jugé. Bah, chevalier, dit Duménil d'une voix qu'il essayait inutilement de faire rassurer, je crois que vous vous alarmez trop vite. Non pas, je sais à quoi m'en tenir. Et puis, tenez. Quoi? On vient, silence. Et Gaston s'éloigna vivement de la cheminée. La porte s'ouvrit, le major et le lieutenant, escortés de 4 soldats, venaient chercher Gaston. Gaston profita de la lumière qu'ils apportaient pour mettre un peu d'ordre dans sa toilette, puis les suivit comme la première fois. On le fit entrer dans une chaise à porteurs bien close, précaution bien inutile, puisque sur son passage tous les soldats ou gardiens se retournaient du côté de la muraille. C'était la consigne de la Bastille. Le visage de D'Argenson s'était renfrogné comme de coutume. Ses assesseurs n'avaient pas meilleur air que lui. Je suis perdu, murmura Gaston, pauvre Hélène. Puis il releva la tête avec l'intrépidité d'un homme brave qui, sachant que la mort va venir, lève la tête pour la voir arriver en face. Monsieur, dit d'Argenson, votre crime a été examiné par le tribunal dont je suis le président. On vous a permis, dans les séances précédentes, de vous défendre. Si l'on n'a pas jugé à propos de vous accorder un avocat, ce n'est point dans le but de nuire à votre défense, mais au contraire parce qu'il est inutile de publier vis-à-vis de vous l'indulgence extrême d'un tribunal chargé d'être sévère. Je ne vous comprends pas, monsieur, dit Gaston. Alors je serai plus clair, dit le lieutenant de police. Les débats eussent fait ressortir, même aux yeux de votre défenseur, une chose incontestable, c'est que vous êtes un conspirateur et un assassin. Comment vouliez-vous que, ces deux points établis, on usât d'indulgence avec vous? Mais nous voilà devant vous, toutes facilités vous seront données pour votre justification. Si vous demandez un délai, vous l'aurez. Si vous désirez des recherches de pièces, elles seront faites. Si vous parlez, enfin, vous aurez la parole, et on ne vous la retirera point. Je comprends la bienveillance du tribunal, répondit Gaston, et je l'en remercie. De plus, l'excuse qu'il me donne pour l'absence d'un défenseur dont je n'ai pas besoin me semble suffisante. Je n'ai pas à me défendre. Vous ne voulez donc ni témoin, ni pièce, ni délai? Je veux mon arrêt, voilà tout. Voyons, continua d'Argenson, pour vous-même, chevalier, ne vous entêtez pas ainsi, et faites quelques aveux. Je n'ai pas d'aveux à faire, car remarquez que dans toutes mes interrogations, vous n'avez pas même formulé une accusation précise. Et vous en voudriez une? J'avoue que je ne serais pas fâché de savoir de quoi l'on m'accuse. Eh bien, je vais vous le dire. Vous êtes venu à Paris, délégué par la commission républicaine de Nantes, vous êtes venu pour assassiner le régent. Vous étiez adressé à un nommé La Jonquière, votre complice, aujourd'hui condamné comme vous. Gaston se sentait pâlir, car toutes ces accusations étaient vraies. Ce serait, monsieur, reprit-il, que vous ne pourriez savoir. Un homme qui veut commettre une telle action ne l'avoue que lorsqu'elle l'est commise. Oui, mais ses complices l'avouent pour lui. C'est me dire que La Jonquière me dénonce. La Jonquière, il n'est pas question de La Jonquière, mais des autres accusés. Des autres accusés? S'écria Gaston. Y a-t-il donc encore d'autres personnes arrêtées que moi et le capitaine La Jonquière? Mais oui, il y a messieurs de Pontcallec, de Talouette, de Montlouis et du Couédic. Je ne vous comprends pas, dit Gaston, avec un vague et profond sentiment de terreur, non pour lui, mais pour ses amis. Comment? Vous ne comprenez pas que messieurs de Pontcallec, de Talouette, de Montlouis et de Couédic ont été arrêtés et qu'on leur fait leur procès en ce moment même à Nantes? Arrêtés? Eux? S'écria Gaston. Impossible! Ah oui, n'est-ce pas? Dit d'Argenson. Vous pensiez que la province se révolterait plutôt que de laisser arrêter ses défenseurs, comme vous dites, vous autres rebelles. Eh bien, la province n'a rien dit. La province a continué de rire, de chanter et de danser. Seulement, on s'informe déjà sur quelle place de Nantes ils seront décapités afin d'y louer des fenêtres. « Je ne vous crois pas, monsieur, » dit froidement Gaston. « Donnez-moi ce portefeuille, » dit d'Argenson à une espèce de greffier qui se tenait debout derrière lui. « Tenez, monsieur, » continua le lieutenant de police en tirant successivement plusieurs papiers du portefeuille. « Voici des actes d'arrestation suivis des procès-verbaux. Doutez-vous des pièces authentiques ?»« Tout cela ne me dit point, monsieur, qu'il m'est accusé. »« Ils ont dit tout ce que nous voulions savoir, et votre culpabilité résulte clairement de leurs interrogatoires. »« En ce cas, et s'ils ont dit tout ce que vous vouliez savoir, vous n'avez plus besoin de mes aveux. »« Est-ce votre réponse définitive, monsieur ?»«
Oui. » »«
Greffier ?» « Lisez le jugement. » Le greffier déroula un papier et lut d'une voix nasillarde, du même ton qu'il eût lu un simple exploit. « Attendu qu'il résulte de l'instruction commencée le 19 février que messire Gaston Éloi de Chanlay est venu de Nantes à Paris dans l'intention de commettre sur la personne de son Altesse Royale Monseigneur le Régent de France un crime de meurtre qui devait être suivi d'une révolte contre l'autorité du roi, la commission extraordinaire instituée pour connaître de ce crime a jugé le chevalier de Chanlay digne du châtiment réservé aux coupables de haute trahison et de lèse-majesté, la personne de monsieur le Régent étant inviolable comme personne royale. En conséquence, ordonnons que monsieur le chevalier Gaston de Chanlay sera préalablement dégradé de tous ses titres et dignités, déclare ignoble lui et sa postérité à perpétuité, ses biens confisqués, ses bois de haute futaie coupés à la hauteur de 6 pieds et lui-même décapité à la requête des gens du roi, soit en place de grève, soit en tout lieu qu'il plaira à monsieur le grand prévôt d'indiquer, sauf le pardon de sa majesté. Gaston écouta la lecture de sa condamnation avec la pâleur, mais aussi avec l'immobilité d'une statue de marbre. « Et quand l'exécution aura-t-elle lieu » demanda-t-il. « Sitôt qu'il plaira à sa majesté, » répondit le lieutenant de police. Gaston sentit comme un grand serrement aux tempes. Un nuage sanglant passa devant ses yeux. Il sentit que ses idées se troublaient et demeura silencieux pour ne pas dire quelque chose d'indigne de lui. Mais si l'expression fut vive, elle fut rapide. Peu à peu, la sérénité reparut sur son front, le sang remonta à ses joues et une espèce de sourire dédaigneux retroussa ses lèvres. « C'est bien, monsieur, » dit-il, « à quelque moment que vienne l'ordre de sa majesté, il me trouvera prêt. » Seulement, je voudrais savoir si, avant de mourir, il me sera permis de voir quelques personnes qui me sont chères et de demander une faveur au roi. » Les yeux de D'Argenson pétillèrent d'une joie maligne. « Monsieur, dit-il, je vous avais prévenu qu'on vous traiterait avec indulgence. Vous pouviez donc me dire ceci plus tôt, et la bonté de Sa Majesté ne se fût peut-être pas laissée devancer par une prière. » « Vous vous méprenez, monsieur, » dit Gaston, avec un air de dignité. « Je ne demande à Sa Majesté qu'une faveur dont ma gloire et la sienne ne souffriront pas. »« Que demandez-vous donc ?» dit D'Argenson. « Parlez, et je vous dirai tout de suite s'il y a chance qu'il soit fait droit à votre requête. » « Je demande d'ailleurs que mes titres et dignités, qui d'ailleurs sont peu de choses, ne soient pas éteints ni altérés, car je n'ai pas de postérité. Je meurs tout entier, et mon nom est la seule chose qui doive me survivre. Encore comme il n'était que noble et non illustre, ne me survivra-t-il pas longtemps ?»« Ceci est faveur toute royale, monsieur. Sa Majesté seule peut répondre, et Sa Majesté répondra. Était-ce tout ce que vous désiriez, monsieur ?» Non, monsieur, je désire encore une chose, mais je ne sais à qui je dois en faire la demande. À moi, d'abord, monsieur, puis en ma qualité de lieutenant de police, je verrai si je dois prendre sous ma responsabilité de vous accorder cette chose, ou s'il est nécessaire que j'en réfère à Sa Majesté. Eh bien, monsieur, dit Gaston, je désire qu'on m'accorde la grâce de voir mademoiselle Hélène de Chaverny, pupille de son excellence monsieur le duc d'Olivares et monsieur le duc lui-même. » D'Argenson, à cette demande, fit un signe singulier que le chevalier interpréta comme une hésitation. « Monsieur, se hâta d'ajouter Gaston, je les verrai où l'on voudra et aussi peu de temps que l'on voudra. » « C'est bien, monsieur, vous les verrez, » dit D'Argenson. « Ah, monsieur, s'écria Gaston en faisant un pas en avant, comme pour lui prendre la main, vous me comblez de joie. » « À une condition, cependant, monsieur. »« Laquelle, dites, il n'est aucune condition compatible avec mon honneur que je n'accepte en échange d'une si grande grâce. »« Vous ne parlerez à personne de votre condamnation, et cela sur votre parole de gentilhomme. » « Je le ferai d'autant plus volontiers, monsieur, » répondit Gaston, « que l'une des deux personnes mourrait à coup sûr en l'apprenant. »« Alors voilà qui est bien. N'avez-vous plus rien à me dire ?»« Non, monsieur, sinon que je désire que vous attestiez que je n'ai rien dit. »« Vos dénégations sont inscrites aux procès-verbaux. Greffier, passez les pièces à monsieur, qu'il les lise et qu'il les signe. » Gaston s'assit devant une table, et tandis que D'Argenson et les juges, groupés autour de lui, causaient entre eux, il lut avec attention toutes les pièces du procès et repassa toutes les réponses qu'il avait faites depuis ses interrogatoires. « Monsieur, dit Gaston, voici vos papiers en règle. Aurais-je l'honneur de vous revoir ?»« Je ne crois pas, » répondit D'Argenson avec cette brutalité qui en faisait l'épouvantail de tout prévenu et de tout condamné. « Alors, au revoir dans l'autre vie, monsieur. » D'Argenson s'inclina et fit le signe de la croix selon l'usage des juges qui prennent congé d'un homme qu'ils viennent de condamner à mort. Alors le major s'empara de Gaston et le ramena dans sa chambre. Rentré dans sa chambre, Gaston fut obligé de répondre à Duménil et à Pompadour, qui avaient veillé, en attendant de savoir de ses nouvelles. Alors, selon la promesse qu'il avait faite à M. d'Argenson, il ne dit pas un mot de l'arrêt qui le condamnait à mort, et leur annonça seulement un interrogatoire plus grave que les autres. Gaston, malgré la promesse que lui avait faite d'Argenson, doutait toujours qu'on lui permît de revoir Hélène. Mais il savait qu'on ne le laisserait pas mourir sans lui donner un confesseur. Or, il n'y avait aucun doute que ce confesseur ne consentît à exaucer le dernier vœu d'un mourant en remettant deux lettres à leur adresse. Après avoir passé une partie de la nuit à écrire, il s'endormit. À 25 ans, il faut toujours que l'on dorme, même quand on va s'endormir pour toujours. Le matin, on apporta à Gaston son déjeuner à l'heure habituelle. Seulement, Gaston remarqua qu'il était plus délicat que de coutume. Il sourit à cette attention suprême et se rappela les soins qu'on avait, disait-on, pour les condamner à mort. Vers la fin du déjeuner, le gouverneur entra. Gaston, d'un œil rapide, interrogea son visage. C'était le même visage, affable et plein de courtoisie. Lui aussi, ignorait-il donc la condamnation de la veille, ou était-ce un masque qu'il portait ? « Monsieur, dit le gouverneur, voulez-vous bien prendre la peine de descendre dans la chambre du conseil ?» Gaston se leva. Il entendit comme un bourdonnement dans ses oreilles. Pour un condamné à mort, toute injonction qu'il ne comprend pas paraît un acheminement vers le supplice. « Puis-je savoir pourquoi l'on me fait descendre, monsieur ?» demanda Gaston, d'une voix d'ailleurs assez calme, pour qu'il fût impossible d'y reconnaître son émotion intérieure. « Mais pour y recevoir une visite, répondit le gouverneur, hier après l'interrogatoire, n'avez-vous pas demandé à monsieur le lieutenant de police la faveur de voir quelqu'un ?» Gaston tressaillit. « Et c'est cette personne ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. » Gaston ouvrait la bouche pour continuer l'interrogatoire, car il venait de se rappeler que ce n'était pas une mais deux personnes qui l'attendaient. Or, on lui en annonçait une seule, laquelle des deux était venue. Il n'eut point le courage de le demander et suivit silencieusement le gouverneur. Le gouverneur conduisit Gaston dans la salle du conseil. En y entrant, Gaston jeta de tous côtés un regard avide, mais la salle était entièrement déserte et les officiers qui assistaient d'ordinaire à ces sortes d'entrevues étaient eux-mêmes absents. « Restez ici, monsieur, dit le gouverneur à Gaston. La personne que vous attendez va venir. » Monsieur de Launay salua Gaston et sortit. Gaston courut à la fenêtre, qui était grillée, d'ailleurs comme toutes les fenêtres de la Bastille. Devant la fenêtre, il y avait une sentinelle. Comme il était penché pour regarder dans la cour, la porte s'ouvrit. Au bruit qu'elle fit en s'ouvrant, Gaston se retourna et se trouva en face du duc d'Olivares. Ce n'était pas tout ce qu'il attendait, et cependant c'était déjà beaucoup, car si on lui avait tenu parole pour le duc, il n'y avait aucun motif à ce qu'on lui manquât de parole pour Hélène. « Ah, monseigneur, s'écria Gaston, que vous êtes bon de vous rendre à la prière d'un pauvre prisonnier !»« C'était un devoir pour moi, monsieur, répondit le duc, puis d'ailleurs j'avais à vous remercier. » « Moi, dit Gaston étonné, qu'ai-je donc fait qui mérite les remerciements de votre Excellence ? Vous avez été interrogé et vous avez été conduit à la salle de torture. On vous a fait comprendre qu'on vous ferait grâce si vous nommiez vos complices et cependant vous avez gardé le silence. C'était un engagement pris et je l'ai tenu, voilà tout. Cela ne vaut pas un remerciement, monseigneur. » « Et maintenant, monsieur, dites-moi, reprit le duc, si je puis vous être bon à quelque chose. »« Avant tout, rassurez-moi sur vous-même, monseigneur, n'avez-vous point été inquiété ?»« Aucunement. Tant mieux. Et si les conjurés de Bretagne sont aussi discrets que vous, je ne doute pas que mon nom ne soit même pas prononcé dans ces malheureux débats. » « Oh, je réponds d'eux, monseigneur, comme de moi-même. Mais vous, répondez-vous de la Jonquière ?» « De la Jonquière, dit le duc embarrassé. « Oui, ne savez-vous pas que lui aussi a été arrêté ?»« Je suis fait, j'ai entendu dire quelque chose comme cela. »« Eh bien, monseigneur, je vous demande ce que vous en pensez. »« Je ne puis rien vous dire là-dessus, monsieur, sinon qu'il a toute ma confiance. »« Si là votre confiance, c'est qu'il en est digne, voilà tout ce que je voulais savoir, monseigneur. Alors, monsieur, revenez à cette demande que vous allez me faire. Votre Excellence a vu cette jeune fille que j'ai conduite chez elle. Mademoiselle Hélène de Chaverny, oui, monsieur, je l'ai vue. Eh bien, monseigneur, ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire alors, je vais vous le dire à cette heure. Cette jeune fille, je l'aime depuis un an. Le rêve de cette année avait été de consacrer ma vie à son bonheur. Je dis le rêve, monseigneur, car lorsque j'étais éveillé, je savais bien que tout espoir de bonheur m'était défendu. Et cependant, pour donner un nom, une position, une fortune à cette jeune fille, au moment où j'ai été arrêté, elle allait devenir ma femme. Sans l'aveu de ses parents, sans le consentement de sa famille, dit le duc. Elle n'avait ni famille ni parents, monseigneur, et, selon toute probabilité, elle allait être vendue à quelque grand seigneur, lorsqu'elle a cru devoir quitter la personne qu'on avait placée chez elle. Mais qui a pu vous faire croire que mademoiselle Hélène de Chaverny allait être victime d'un honteux marché? Ce qu'elle m'a raconté elle-même d'un prétendu père qui se cachait, de diamants qu'on lui avait offerts. Et puis, savez-vous où je l'ai retrouvé, monseigneur? Dans une de ces maisons infâmes destinées au plaisir de nos roués, elle, un ange de candeur et de pureté. Bref, monseigneur, cette jeune fille s'est enfuie avec moi, malgré les cris de sa gouvernante, en plein jour, à la face des laquais qu'on avait placés autour d'elle. Elle est restée 2 heures seule avec moi, et, quoiqu'elle soit pure encore comme au jour où elle reçut le premier baiser de sa mère, elle n'en est pas moins compromise à cette heure. Eh bien, monseigneur, je voudrais que le mariage projeté s'accomplit. Dans la situation où vous êtes, monsieur, demanda le duc. Raison de plus, monseigneur. Mais peut-être vous faites-vous illusion sur la peine qui vous est réservée. C'est probablement la même qui, en circonstances pareilles, a frappé le comte de Chalais, le marquis de Saint-Marc et le chevalier Luc de Rohan. Ainsi, vous êtes préparé à tout, monsieur, même à la mort. Je m'y étais préparé, monseigneur, du jour où je suis entré dans ce complot. La seule excuse du conspirateur, c'est qu'en enlevant la vie aux autres, il met la sienne en jeu. Et cette jeune fille, que gagnera-t-elle à ce mariage? Monseigneur, sans être riche, j'ai quelque fortune. Elle est pauvre, j'ai un nom, et elle n'en a pas. Je voudrais lui laisser mon nom et ma fortune, et à cet effet, j'ai déjà fait demander au roi que mes biens ne fussent pas confisqués, et que mon nom ne fût pas déclaré infâme. Quand on saura pour quelle cause je fais ces 2 dernières demandes, sans doute on me les accordera. Et si je meurs sans qu'elle soit ma femme, on la croira ma maîtresse, et elle est déshonorée et perdue, et il n'y a plus d'avenir pour elle. Si au contraire, par votre protection ou par celle de vos amis, et c'est cette protection que j'implore à main jointe, nous sommes unis, nul n'a rien à lui reprocher. Le sang qui coule sur un échafaud politique ne tache point la famille, aucune honte ne rejaillira sur ma veuve. Si elle ne vit pas heureuse, elle vivra du moins indépendante et honorée. Voici la grâce que j'avais à vous demander, monseigneur. Est-il en votre pouvoir de me l'obtenir? Le duc s'avança vers la porte par laquelle il était entré et frappa 3 coups. La porte s'ouvrit et le lieutenant Maisonrouge parut. « Monsieur le lieutenant, dit le duc, veuillez demander de ma part à monsieur de Launay si la jeune fille qui est à la porte et qui attend dans mon carrosse peut pénétrer jusqu'ici. Il sait que, comme la mienne, sa visite est autorisée. Vous aurez la bonté de l'amener ici, n'est-ce pas ? Comment, monseigneur ? Hélène est là, à la porte ? Ne vous avait-on pas promis qu'elle viendrait ? Aussi, mais en vous voyant seul, j'avais perdu tout espoir. » J'avais voulu vous voir d'abord, présumant que vous auriez 1000 choses à me dire qu'elle ne devrait pas entendre, car je sais tout, monsieur. Vous savez tout, que voulez-vous dire? Je sais qu'hier vous avez été appelé à l'arsenal. Monseigneur, je sais que vous y avez trouvé d'Argenson, je sais qu'il vous a lu votre arrêt, je sais que vous êtes condamné à mort, enfin, et que l'on a exigé votre parole, que vous ne le diriez à personne. Oh, monseigneur, silence, silence, un mot de cela et vous tuez Hélène. Soyez tranquille, monsieur, mais voyons, n'y a-t-il donc aucun moyen d'échapper à cette mort? S'il faudrait des jours pour préparer et exécuter un plan d'évasion, et votre Excellence le sait, à peine si j'ai des heures. Si je ne vous parle point de cela, je vous demande si vous n'avez aucune excuse à donner à votre crime. Mon crime, reprit Gaston, étonné qu'un complice se servît de cette expression. Eh mon Dieu, oui, reprit le duc se reprenant, vous savez que c'est ainsi que les hommes appellent le meurtre d'un homme. Seulement, la postérité juge, et de ce crime fait quelquefois une grande action. Je n'ai aucune excuse à donner, monseigneur, si ce n'est que je crois la mort du régent nécessaire au bonheur de la France. Oui, reprit en souriant le duc, mais vous comprenez bien que ce n'est point là une excuse à donner à Philippe d'Orléans. J'aurais voulu quelque chose de personnel. Tout ennemi politique que je sois du régent, je dois dire qu'il ne passe pas pour un méchant homme, on le dit miséricordieux, et nulle exécution capitale n'a été faite sous son règne. Vous oubliez le comte de Horn, roué en grève. C'était un assassin. Mais que suis-je donc, moi, si ce n'est un assassin comme le comte de Horn? Avec cette différence que le comte de Horn assassinait pour voler, lui. Je ne peux et ne veux rien demander au régent, dit Gaston. Non pas vous personnellement, monsieur, je le sais, mais à vos amis. Si vos amis avaient une excuse plausible à faire valoir, peut-être le prince irait-il lui-même au-devant de vos désirs, peut-être ferait-il grâce. Je n'en ai aucune, monseigneur. C'est impossible, monsieur, permettez-moi de vous le dire. Une résolution comme celle que vous avez prise ne naît pas dans le cœur d'un homme sans un motif quelconque, sans un sentiment de haine, sans un besoin de vengeance. Et tenez, je me le rappelle, vous l'avez dit au capitaine La Jonquière, qui me l'a redit. Vous avez hérité d'une haine de famille. Voyons, dites-moi, quelle était la cause de cette haine ? Inutile, monseigneur, de vous fatiguer de tout cela. L'événement qui a donné naissance à cette haine n'aurait aucun intérêt pour votre excellence. N'importe, dites toujours. Eh bien, le régent a tué mon frère. Le régent a tué votre frère? Que dites-vous? Impossible, monsieur Gaston, s'écria le duc d'Orléans. Oui, tué, si de l'effet on remonte à la cause. Expliquez-vous, parlez, comment le régent a-t-il pu... Mon frère, qui était plus âgé que moi de 15 ans, et qui a remplacé près de moi mon père, mort 3 mois avant ma naissance, ma mère, morte pendant que j'étais au berceau, mon frère était amoureux d'une jeune fille qui, par les ordres du régent, était élevée dans un couvent. Dans quel couvent, le savez-vous? Non, je sais seulement que c'était à Paris. Le duc murmura quelques mots que Gaston n'écouta point ou ne put point entendre. Mon frère, parent de l'abbesse de ce couvent, avait eu l'occasion de voir cette jeune fille. Il en était devenu amoureux, il l'avait demandé en mariage. On avait sollicité du prince son agrément à cette union, et il avait fait semblant d'y consentir, lorsque cette jeune fille, séduite par son prétendu protecteur, disparut tout à coup. Pendant 3 mois, mon frère espéra la retrouver, mais toutes ses recherches furent inutiles. Il n'en eut aucune nouvelle, et de désespoir, il se fit tuer à la bataille de Ramilly. Et comment s'appelait cette jeune fille qu'aimait votre frère? Demanda vivement le duc. Personne ne l'a jamais su, monseigneur. Dire son nom, c'était le déshonorer. Plus de doute, c'était elle, murmura le duc. C'était la mère d'Hélène. Et votre frère se nommait, ajouta-t-il tout haut, Olivier de Chanlay, monseigneur. Olivier de Chanlay, répéta tout bas le duc, je savais bien que ce nom de Chanlay ne m'était pas étranger. Vous comprenez donc, continua Gaston, qu'il faut que ma destinée s'accomplisse et que je ne puis rien demander à cet homme. Oui, monsieur, vous avez raison, dit le duc, il faut que les choses se fassent toutes seules si elles se font. En ce moment, la porte s'ouvrit et le lieutenant Maisonrouge parut. Eh bien, monsieur, demanda le duc. Monsieur le gouverneur avait effectivement reçu de monsieur le lieutenant de police l'ordre de laisser communiquer le prisonnier avec mademoiselle Hélène de Chaverny. Faut-il que je fasse monter ? Monseigneur, dit Gaston en regardant le duc d'un air suppliant. Oui, monsieur, répondit celui-ci, je comprends, la douleur et l'amour ont leur pudeur qui ne veut pas de témoins. Je viendrai reprendre mademoiselle Hélène. La permission est pour une demi-heure seulement, dit Maison Rouge. Je vous laisse, dit le duc, je viendrai la reprendre dans une demi-heure. Et il sortit après avoir salué Gaston. Maison Rouge fit alors sa ronde autour de la chambre, examina chaque porte, s'assura que les sentinelles étaient bien devant les fenêtres et sortit à son tour. Un instant après, la porte se rouvrit et Hélène apparut, pâle, tremblante et balbutiant des remerciements et des questions au lieutenant de la Bastille, qui la salua fort courtoisement et se retira sans rien répondre. Ce fut alors seulement qu'en regardant autour d'elle, Hélène aperçut Gaston. Comme on avait fait pour le duc, et contrairement à l'usage toujours suivi, on avait laissé les jeunes gens seuls. Gaston courut à Hélène, Hélène à Gaston, et sans autre idée que leur souffrance passée et que l'avenir si sombre, ils s'étreignirent avec ardeur. « Enfin !» s'écria la jeune fille, le visage inondé de larmes. « Oui, enfin !» répéta Gaston. « Hélas, nous revoir ici, dans cette prison !» murmura Hélène, en regardant avec terreur autour d'elle. « Ne pas pouvoir vous parler librement, être surveillée, écoutée peut-être !» Ne nous plaignons pas, Hélène, car il y a une exception en notre faveur. Jamais un prisonnier n'a pu serrer contre son cœur une amie, une parente. Ordinairement, voyez-vous, Hélène, le visiteur est là-bas, contre ce mur, le prisonnier à l'autre extrémité, et un soldat se tient au milieu de la chambre, et le sujet de nos conversations est fixé d'avance. À qui devons-nous cette faveur ? Il faut bien que je le dise, Hélène, au régent sans doute, car lorsqu'hier j'ai demandé à monsieur d'Argenson la permission de vous voir, il a dit que cela dépassait ses pouvoirs et qu'il lui fallait en référer au régent. Et vous, Gaston, maintenant que je vous trouve, vous allez me raconter en détail ce qui s'est passé depuis un siècle de larmes et de souffrances. Ah, dites-moi, mes pressentiments ne me trompaient donc point, vous conspiriez, oh, ne niez pas, je le savais. « Eh bien oui, Hélène, vous le savez, nous autres Bretons, nous sommes constants dans nos haines comme dans nos amours. Une ligue s'est organisée en Bretagne. Toute la noblesse y a pris part. Devais-je faire autrement que faisaient mes frères ? Je vous le demande, Hélène, le devais-je, le pouvais-je ? Ne m'eussiez-vous pas méprisé quand vous auriez vu toute la Bretagne en armes et moi, seul, oisif, une cravache à la main, tandis que les autres y tenaient une épée ? Non, non, vous avez raison, Gaston, mais pourquoi n'êtes-vous pas resté avec les autres en Bretagne ? Les autres sont arrêtés comme moi, Hélène. Vous avez donc été dénoncé, trahi ? Probablement, mais asseyez-vous là, Hélène. Laissez-moi vous regarder maintenant comme nous sommes seuls. Laissez-moi vous dire que vous êtes belle. Laissez-moi vous dire que je vous aime. Et vous, vous, Hélène, comment vous êtes-vous trouvé en mon absence, le duc ? Oh, si vous saviez, Gaston, comme il a été bon pour moi, et chaque soir il est venu me voir, oh, que de soins, que de prévenances. Et, dit Gaston, que le mot jeté au hasard par le faux la Jonquière mordait au cœur en ce moment, et dans ses soins, dans ses prévenances, rien de suspect. Que voulez-vous dire, Gaston ? Demanda Hélène. Que le duc est jeune encore, et que, comme je vous le disais, vous êtes bien belle. « Oh, grand Dieu ! Oh non, non, Gaston ! Cette fois, il n'y a pas à s'y tromper, et quand il était là, près de moi, aussi près que vous êtes vous-même en ce moment, eh bien, il y avait des instants, Gaston, où je croyais avoir retrouvé mon père. » « Pauvre enfant ! Oui, par un hasard étrange, et dont je ne puis me rendre compte, il y a dans la voix du duc et dans celle de cet homme qui est venu me voir à Rambouillet une ressemblance qui, tout d'abord, m'a frappé. « Vous croyez ?» dit Gaston, distrait. « Mais à quoi pensez-vous, mon Dieu ? Dit Hélène. Il me semble que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Moi, Hélène, moi, quand chacune de vos paroles retentit au plus profond de mon cœur ? Non, vous êtes inquiet. Oh, Gaston, je comprends cela. Conspirer, c'est jouer sa vie. Mais soyez tranquille, Gaston, je l'ai dit au duc. Si vous mourrez, je mourrai. » Gaston tressaillit. « Ange que vous êtes, dit-il. » « Oh, mon Dieu !» continua Hélène. « Comprenez-vous un supplice pareil ? Sentir que l'homme qu'on aime court un danger d'autant plus terrible qu'il est inconnu, sentir qu'on ne peut rien pour lui, rien au monde que de verser des larmes inutiles, et cela quand on donnerait sa vie pour racheter la sienne !» Le visage de Gaston s'illumina d'un rayon de bonheur. C'était la première fois qu'il entendait de si douces paroles sortir de la bouche de sa bien-aimée, et sous l'impression d'une pensée qu'il paraissait mûrir depuis quelques instants. « Si fait, mon Hélène, dit-il en lui prenant les mains, si fait, tu te trompes et tu peux beaucoup pour moi. Et que puis-je donc, mon Dieu ? Tu peux consentir à devenir ma femme, dit Gaston, en regardant Hélène fixement. Hélène tressaillit. « Moi, votre femme, dit-elle. Oui, Hélène, ce projet arrêté pendant que nous étions libres, tu peux le réaliser pendant ma captivité. Hélène, ma femme devant Dieu et devant les hommes, ma femme dans ce monde et dans l'autre, dans le temps et l'éternité, voilà ce que d'un mot tu peux devenir pour moi, Hélène. Crois-tu donc que ce n'est rien ? Gaston, dit Hélène en regardant fixement le jeune homme, vous me cachez quelque chose. » Ce fut Gaston qui tressaillit à son tour. « Moi, dit-il, et que voulez-vous que je vous cache ? Vous m'avez dit vous-même que vous aviez vu Monsieur d'Argenson hier. »« Oui, eh bien. »« Eh bien, Gaston, dit en pâlissant Hélène, vous êtes condamné. » Gaston prit une résolution soudaine. « Eh bien oui, dit-il, je suis condamné. » « À la déportation, et je voulais, égoïste que je suis, vous attacher à moi par des liens indissolubles avant de quitter la France. »« Gaston, dit Hélène, est-ce bien vrai ce que vous me dites ?»« Oui, auriez-vous le courage de devenir la femme d'un proscrit, Hélène, de vous condamner à l'exil ?»« Tu le demandes, Gaston ?» s'écria Hélène, les yeux rayonnants d'enthousiasme. « L'exil ? Oh merci, mon Dieu, moi qui eusse accepté avec toi une prison éternelle !» « Oui, Hélène, oui, murmura Gaston avec effort. « Mais sans doute, reprit Hélène, mais juge donc quel sera mon bonheur. La France, pour moi, c'est le pays où tu seras, ma patrie, c'est ton amour. J'aurai, je le sais bien, à te faire oublier la Bretagne, tes amis, tes rêves d'avenir, mais je t'aimerai tant, vois-tu, que je te ferai oublier tout cela. » Gaston ne put que prendre les mains d'Hélène et les couvrir de baisers. « Le lieu de ton exil est-il fixé ? Reprit Hélène. « Te l'a-t-on dit ? Quand pars-tu ? Nous partirons ensemble, n'est-ce pas ? Mais réponds donc !»« Mon Hélène, répondit Gaston, c'est impossible, on nous sépare. Momentanément, du moins, je dois être conduit à la frontière de France, je ne sais encore à laquelle. Une fois hors du royaume, je suis libre, et alors tu viens me rejoindre. » « Oh, mieux que cela, Gaston !» s'écria Hélène. « Mieux que cela, par le duc, je sais d'avance dans quel pays ils veulent t'exiler, et au lieu d'aller de te rejoindre, je vais t'y attendre. En descendant de voiture, tu me trouveras là pour adoucir tes adieux à la France. Puis, quand il n'y a que la mort qui soit sans retour, plus tard le roi te fera grâce. Plus tard, peut-être même, l'action dont aujourd'hui on te punit sera une action qui méritera sa récompense. Alors nous reviendrons, alors rien ne nous empêchera de retourner en Bretagne, ce berceau de notre amour, ce paradis de nos souvenirs. « Oh !» reprit Hélène avec un accent d'amour mêlé d'impatience, « dis-moi donc que tu partages mon espoir, dis-moi que tu es content, dis-moi que tu es heureux. »« Oh oui, oui, Hélène !» s'écria Gaston, « je suis heureux, car c'est à cette heure seulement que je sais quel ange m'a aimé. Oh oui, oui, Hélène, je te le dis, une heure d'amour pareil au tien, et puis mourir, cela vaudrait mieux qu'une longue vie sans être aimée. » « Eh bien, voyons, continua Hélène, rattachant toute son âme au nouvel avenir qui se présentait à elle, maintenant que vont-ils faire ? Me laisseront-ils revenir ici avant ton départ ? Quand et comment nous reverrons-nous ? Pourras-tu recevoir mes lettres ? Te permettront-ils de me répondre ? Demain matin, à quelle heure pourrais-je me présenter à la prison ? Oh, on m'a presque promis que notre mariage aurait lieu ce soir ou demain. » « Ici, dans une prison, dit Hélène en frissonnant malgré elle. Oh, quelque part qu'il ait lieu, Hélène, ne me liera-t-il pas à toi pour le reste de ma vie ? Mais, dit Hélène, si l'on te manquait de paroles, si l'on te faisait partir avant que je te revisse. » Hélas, dit Gaston, avec un serrement de cœur terrible, cela est encore possible, ma pauvre Hélène, et voilà ce que je crains. Oh mon Dieu, crois-tu donc ton départ si proche ? En ce moment, on ouvrit la porte. « Oh mon Dieu, déjà !» s'écria Hélène. « Mademoiselle, dit le lieutenant, le temps accordé pour votre visite est écoulé, et au-delà. »« Hélène, dit Gaston, en se cramponnant aux mains de la jeune fille avec un frissonnement nerveux dont il n'était pas maître. Eh bien, quoi, quoi, mon ami, reprit Hélène en le regardant avec terreur. Qu'avez-vous? Vous pâlissez? Moi, non, non, rien, reprit Gaston, redevenant maître de lui-même à force de volonté. Rien. Et il baisa les mains d'Hélène en souriant. À demain, dit Hélène. Oui, à demain. À ce moment, le duc parut à son tour sur le seuil de la porte. Le chevalier courut à lui. « Monseigneur, lui dit Gaston, en lui saisissant les mains, Monseigneur, faites tout ce que vous pourrez pour obtenir qu'elle soit ma femme, mais si vous ne l'obtenez pas, jurez-moi au moins qu'elle sera votre fille. » Le duc serra les mains de Gaston. Il était tellement ému qu'il ne pouvait répondre. Hélène s'approcha, le chevalier se tut, craignant qu'elle n'entendît. Il tendit une main à Hélène qui lui tendit son front. De grosses larmes silencieuses coulaient sur les joues de la jeune fille. Gaston fermait les yeux pour ne pas pleurer en la voyant pleurer. Enfin, il fallut se quitter. Gaston et Hélène échangèrent un long et dernier regard. Le duc tendit la main à Gaston. C'était une chose étrange que cette sympathie entre deux hommes, dont l'un était venu de si loin pour tuer l'autre. La porte se referma et Gaston retomba sur un fauteuil. Toutes les forces du malheureux jeune homme étaient épuisées. Au bout de 10 minutes, le gouverneur rentra. Il venait chercher Gaston pour le ramener dans sa chambre. Gaston le suivit, morne et silencieux, et lorsque le gouverneur lui demanda s'il ne désirait rien, s'il n'avait besoin de rien, il secoua seulement la tête.